Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, Friday Night SmackDown. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui de l'amiral Ambar. Salut amiral.
Salut IRM, salut les poteaux de Catch Up.
Ça y est, on a enfin quitté Chicago.
Ouais, ça y est, fini. Il fait froid en plus là-bas.
Ouais.
Attends, t'as goûté au moins les deep dish pizza, parce qu'il y a une spécialité.
Bien sûr, mon amiral. Voilà. Évidemment, je connaissais déjà et donc je me suis fait un plaisir de remettre le nez dedans. La deep dish pizza, donc cette grosse quiche, parce que ça ressemble quand même plus à une quiche qu'à une pizza telle qu'on les connaît nous ici en France. J'ai pris la version avec de la mozzarella, tomate, de la viande évidemment, c'était fameux. J'ai dû poster, je crois, sur le compte Instagram, dans une stories de mon périple, j'ai dû poster une ou deux photos de cette fameuse deep dish pizza qui sera restée 3 jours dans mon frigo parce que
nice.
C'est tellement énorme que j'en ai même mangé au petit-déj.
Oh merde, c'est le American Way of Life. Donc d'ailleurs, voilà, si vous voulez suivre un peu ce que IRM a fait Chicago et le reste, n'hésitez pas à vous inscrire sur le compte Instagram de Catch Up. Voilà, vous pourrez voir différentes petites carrières comme ça. Et aussi, pourquoi pas rejoindre Discord aussi. On a un Discord ouvert avec des forums, tout ça. Donc, welcome.
Tu le fais si bien, Amiral. C'est carrément toujours le sens de l'accueil.
N'est-ce pas? Ben oui, c'est pour ça.
Parlant d'accueil, c'est Roman Reigns qui nous accueille ce soir. Nous sommes plus dans l'Illinois et Roman Reigns, lui, il est chaud et il nous souhaite à toutes et à tous joyeux Thanksgiving. Joyeux
Merci Roman.
Merci Roman, c'est plutôt ça. Voilà. On va fourrer la dinde ce soir, tous en cœur.
Qu'est-ce qu'il est poli, Roman Reigns, quoi, c'est incroyable. Hein.
C'est vraiment un chic type. Voilà, il nous dit, voilà, il y a plein de choses qui sont importantes, la famille, la santé et le bonheur. Il a sa famille, même s'il est une année un peu compliquée, mais il va bien maintenant. Il va bien, il va mieux en tout cas. Pour la santé, ça va. Et il remercie les fans qui sont sa vraie famille, le WWE Universe. Il est content d'avoir été dans la team SmackDown qui a botté des culs à Chicago. Alors, et il a un peu l'impasse de tous les autres matchs auxquels il n'a pas participé.
Ah ouais, complètement, on le voit, le mec, il est tellement content de ravoir de la pop en 2019 qu'il s'en fout de tout ce qui ne concerne pas, il est focus uniquement sur lui, SmackDown n'a quasiment rien gagné par son match, mais quand tu l'écoutes, t'as l'impression que SmackDown, c'est les grands gagnants de la soirée, quoi.
Moi, j'avais des yeux genre, ce mec vit dans sa bulle.
C'est ça. Déni de réalité, quoi.
Ah ouais. Voilà, il dit, ouais, bah, alors il y a des champs NXT, du coup, il fait, ouais, bien joué les gars, NXT, vous êtes sympas et tout. Merci d'être venu. Mais SmackDown a fait le boulot.
D'accord.
Job done. Bon, ben là, ça va. La mission est remplie. Ok, il a gagné son match. Bon, c'est vrai que c'est un match important, mais quand même. Il remercie ses partenaires, Ali Gable, Shorty G pour les intimes, Braun Strowman. Mais il y avait quand même un couillon dans cette équipe. Hein, un bêta, un gros bêta. Et
un couillon royal.
Un
n'importe quel couillon, quoi.
Le roi des cons, c'est ça. King Corbin, que je n'appellerai jamais le roi des cons, excusez-moi, mon bon roi, messire, qui débarque, lui, il veut pas remercier Roman Reigns, parce que son leadership, ou en tout cas son absence de leadership, a mené la victoire. Enfin, c'est plutôt grâce au leadership de Baron Corbin qu'ils ont gagné, hein, parce que c'est vrai, il a quand même éliminé deux personnes. Baron Corbin a éliminé deux adversaires, c'est beaucoup. Même s'il y avait beaucoup de monde, on se le rappelle.
En plus, Corbin s'est fait éliminer à cause de Roman Reigns. Donc, du coup,
exactement. Il y a de quoi être remonté hein, pour ce bon vieux roi.
Scandaleux.
C'est scandaleux. Roman Reigns n'est pas ce fameux modèle qu'il veut être auprès de la foule. Et il nous explique son Thanksgiving. Voilà, c'était un Thanksgiving royal et une belle tablée. Il a eu du bon vin, des belles dindes et tout un tas de serviteurs qui l'attendent pour Thanksgiving ou qui l'ont attendu plutôt parce que c'était la veille. C'était quoi sa vanne? Il dit que Roman Reigns, la femme de Roman Reigns a brûlé la dinde et qu'il s'en est même pas rendu compte puisqu'il bouffe de la bouffe pour chien. Et voilà, et c'était naze.
Très, 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 très gros niveau encore. Hein,
c'est le roi.
T'es un chien. Voilà. Ouf, ouf, ouf.
là là. J'ai vu une pub, attends, c'est où que j'ai vu une pub? Ah ouais, j'ai vu une pub aux États-Unis, ça me fait mal, je pensais à ça, où en fait, ils vendent de la bouffe pour chiens et ils disent si votre chien n'aime pas la bouffe qu'on vous vend, quoi, genre imagine Royal Canin pour ne pas citer de marque, dit, bah, si votre chien ne mange, si même votre chien ne mange pas cette nourriture, vous pouvez nous la renvoyer et nous on la mangera. Ça, c'est, okay. C'est une société engagée.
J'ai eu peur. Hein. J'ai peur que le second, ça. Si votre chien la mange pas, renvoyez-la nous et Roman Reigns la mangera. Partenariat foireux à WWE, on n'est pas ça prêt. Ça peut arriver.
Tout ça se suit ensuite, s'ensuit par un match entre Roman Reigns et, bon, pas le baron parce qu'il a autre chose à faire, il est au-dessus de tout ça, mais Robert Roode. Avec Dolph Ziggler qui est également là pour. Alors, il a bien un peu une espèce de réalisateur, il a une espèce de gimmick un peu de réalisateur hollywoodien là. Il est très, 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 très bien habillé ce Dolph Ziggler.
Il a juste une veste de costard et une grosse casquette Fox McDown, quoi, c'est tout.
Hein. Ouais, ça fait, ouais, mais justement, ça fait un peu cliché de,
ouais.
De mec d'Hollywood qui veut rester cool avec sa casquette tout en mettant une veste. Ça, faute de goût ou pas, je vous laisse. À votre propre jugement, est-ce qu'on a le droit de mettre une casquette tout en portant une veste?
Spoiler alert, non.
Et on avait dit pas de spoiler.
Moi j'ai tranché, c'est comme
la
ça.
La fashion police, ouais, t'as rejoint la fashion police.
Ah ouais, moi j'aurais mis un PV direct à la Dolph Ziggler.
Un match assez costaud finalement qui aura duré presque 15 ouais. minutes là, Bobby Roode, Robert a contré le spear, l'a transformé en spinebuster pour le compte de deux, pendant les autres zigotos essayaient un petit peu de pousser le match à l'avantage de leur partenaire, et Robert Roode ensuite voulu utiliser le sceptre royal, mais Roman Reigns lui a placé un bon spear pour faire bonne mesure. Évidemment, d'ailleurs, on se fait tabasser. Dolph Ziggler tabasse Roman Reigns. Tout le monde se met dessus. C'est Robert Roode, en fait, qui va choper une chaise et qui s'apprête à exécuter hein, Roman Reigns sous nos yeux.
Ah oui, c'est guillotine, quoi. C'est
ouais, y avait, l'image était forte. On se dit, oh là là, l'époque des rois qui se faisaient guillotiner de retour. Mm-hmm. Mais Roman Reigns se révolte. Et il place Robert Roode à travers la table des commentateurs. Donc, Roman Reigns, le chien, s'est battu justement comme un chien jusqu'au bout. Est-ce que ça t'a convaincu, toi, sous cette introduction royale?
Alors, du coup, moi, j'ai bien aimé la séquence après match où vraiment il y a ce coup de sceptre. Hein. Il y a Corbin, je crois, c'est Corbin ou Roode, je ne sais plus, qui met un coup de sceptre sur la chaise. Ça fait un impact sur la chaise. Et quand Roman Reigns, il voit ça, il fait oh, pétard. Ah ouais, d'accord. Au fistre, diantre, sacre bleu. Et là, il pète un plomb, il balance, il fait un gros spear à travers la barricade d'insécurité sur Robert Roode. La barricade explose. Il balance les escaliers en métal sur Dolph Ziggler. Il renverse la table des commentateurs pour enterrer Robert Roode dessous. Le King Corbin en regarde ça, a l'air vraiment choqué. Gros après-match de Roman Reigns. Le match, comme tu as dit, en lui-même était costaud. Un bon opener. Bon, tout ça va nous mener à encore un septentrionnel match entre le roi Corbin et Roman Reigns. Mais pour l'instant, pourquoi pas? J'ai peut-être une idée ou une envie, un souhait à faire par rapport à ces trois zigotos, le roi Corbin, Robert Roode et Dolph Ziggler. Vu que Robert Roode et Dolph Ziggler font pas grand-chose à paraître ces hommes de main, bah, pourquoi pas jouer la carte jusqu'au bout et en faire une faction un peu plus unie, où eux aussi adopteraient un look un peu correspondant au roi Corbin, bien sûr inférieur, mais on n'est déjà pas très loin avec l'espèce de robe toute clinquante de Robert Roode.
Il suffit cours du roi.
Voilà, il suffit de repackager un peu Dolph Ziggler, justement lui faire arrêter d'avoir une veste de costume, une casquette ridicule, oui. Mais avoir un truc un peu plus en adéquation avec les deux autres, et avoir effectivement un truc un peu faction. Moi j'aime beaucoup les factions, je pense que c'est ce qui manque, c'est un des trucs qui manque beaucoup dans le main roster à la WWE. On le voit pour ceux qui regardent NXT que Despicable Dora est super over et c'est pas pour rien. Je pense qu'ils auraient intérêt à un peu unifier comme ça des trios, quatuors de mecs qui sont dans les storylines ensemble pendant longtemps, ce qui est leur cas, donc pourquoi pas.
Ouais, effectivement, écoute, on aurait le prince Ziggler peut-être, le prince Ziggler et puis le comte Roode.
Robert
de la Roode.
Après Lord Robert Roode, après Robert Baratheon, Robert Roode, pourquoi pas.
Ah ouais, écoute, c'est vrai qu'il y a tout un côté Game of Thrones, comme tu l'avais dit il y a quelques semaines avec Baron Corbin. Écoute, et pourquoi pas, franchement, ça.
C'est ça.
Ça marche plutôt pas mal, finalement, toute cette interaction. Et surtout, comme tu l'as dit, cette grosse séquence de beatdown là derrière était assez impressionnante. C'est vrai qu'il se retrouve quand même sous la table des commentateurs. Et OK, il y a eu pas mal de blabla qui volaient pas très haut au début. Mais au moins, ça s'est concrétisé par une bonne baston et un gros beatdown.
C'est ça, voilà. Quand l'histoire, la storyline, elle est pas super épaisse, et derrière ce qu'on raconte au micro est pas super intéressante, t'intérêt derrière à assurer le niveau du match et assurer le niveau du beatdown. Et là, effectivement, Roman Reigns, qui est assez strong, assez cool, voilà, où il casse un peu la baraque, il casse les méchants, et c'est par rapport à son perso assez logique, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, du coup, pourquoi pas. Donc, ouais, unifier un peu les méchants de l'histoire, donc, visuellement, ça mangera pas beaucoup de pain, ça prendra juste 2-3 petits costumes, et puis voilà. Quoi, et ça peut.
Mecs sont dans leur délire, voilà, il faut qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, t'as raison.
Exactement.
Amiral, j'ai une question pour toi.
Oui, dis-moi.
Est-ce que tu aimes les roues? Ah, pas les roues de voiture. Les roues, les gens, ceux qui n'ont pas d'âme.
Disons que je n'ai rien contre eux, mais je n'ai pas un amour particulier spécialement pour. Je n'ai rien contre, je n'ai rien pour. Pourquoi?
Parce qu'il y a un sacré roue qui revient bientôt.
Ah.
Eh oui, un Irlandais.
Eh oui. Est-ce que c'est d'ailleurs un hasard qu'on soit à Birmingham ce soir? Pas Birmingham, England, Peaking Blinders, c'est Birmingham, Alabama. Que c'est ce soir-là qu'on annonce le retour du Celtic Warrior.
Non, mais moi j'étais content. J'étais content parce que on le voyait, il était plus proche de la maison de retraite pour aller rejoindre l'ami Chris que pour rejoindre les rings. Hein.
La dernière fois qu'on l'a vu catcher WWE, c'était en avril dernier. C'était il y a 8 mois, donc ce qui est assez long. Et surtout, c'est qu'il y avait des rumeurs d'une blessure assez grave au niveau de la tête ou de la vertébrale. Le genre de blessure qu'a eu genre Edge, Page et Daniel Bryan. Donc, du coup, une blessure qui peut annoncer la fin de carrière. Et même s'ils ont encore des vidéos YouTube sur sa chaîne d'entraînement, etc., il y avait des rumeurs comme quoi il ne remonterait pas dans le ring. Et ben, force est de constater que ce n'est pas le cas, et tant mieux. Et il a fait une petite promo face caméra toute simple, hein, mais qui revient avec sa coiffure du début, à savoir plus le mahawk, mais juste la brosse. Et voilà, il dit, SmackDown, c'est tous des faibles maintenant. En gros, c'est une génération de faibles. Moi, je reviens, je vais botter des fesses. Voilà, c'est bow down to the Celtic Warrior. Ouais, c'est cool. Je trouve ça cool que j'attendais pas son retour, genre, ardemment, mais je m'attendais pas, et du coup tu fais ok, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, c'est un mec quand même, c'est un mec qui a aussi tout gagné, hein, c'est incroyable. Ce mec là a tout gagné. Hein.
Ouais, bah c'était un des chouchous de Triple H quand il est arrivé, donc ça a aidé.
Ça aide.
Ouais.
Bon, on en saura plus la semaine prochaine, du coup.
Bah je pense, est-ce qu'il sera plutôt face, plutôt heel, plutôt je m'en fiche et je vois pas tout ce qui bouge. On verra.
Voilà, un mec qui a envie de botter des culs à la WWE, ça peut être un heel ou un face ou un tweeter, ça peut être tout. Donc, en saura plus peut-être la semaine prochaine. On change un petit peu de gabarit, hein, puisqu'on a eu un petit match entre Mustafa Ali et Drew Gulak, qui a duré 3 minutes. Ali place son 450 degrés. Inversé ou pas inversé, je ne sais plus s'il était inversé.
Oui, c'était inversé, ouais.
Voilà, nous inversons. Pro. Voilà, on inverse. Voilà. On est comme ça. bon voilà, Mustafa Ali, c'est dommage, il y a 2-3 gars comme ça qui ont vraiment eu des fusées au cul à un moment donné, et puis ce qu'on disait depuis quelques semaines, il y a pas mal de gars qui ont des fusées au cul, du coup au bout d'un moment, il y a des fusées un peu qui s'éteignent, mais au moins il est là.
Bah écoute, on fait un match court où il gagne rapidement contre Drew Gulak qui est pas n'importe qui, même si à SmackDown on ne connaît pas trop, c'est un ancien cruiserweight.
SmackDown, il est un peu n'importe qui, je dirais ça. Drew Gulak, malheureusement.
Voilà, et c'est un peu dommage parce que le mec a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Moi, je suis plus intéressé par voir du développement de Drew Gulak que de Mustafa Ali, qui, pour moi, à l'écran en tout cas, manque un peu de personnalité, manque un peu. Qu'est-ce qu'il définit ? Ok, il est très, très bon dans le ring, mais ça fait pas tout. Ça, on le sait bien. Il faut derrière du chien, pas forcément le même qu'Oman Reigns, mais un truc qui t'intéresse et qui te capte ton attention.
Ils avaient essayé un petit peu ça avec ses vidéos là où il est dans les rues de Chicago justement la nuit et toute son histoire de avant j'étais flic et puis j'ai rencontré d'autres flics et
ça ah oui c'est quelque chose on dirait l'intro du rebelle là
ouais
c'est ça. de la vieille série de Lorenzo Lamas. C'était un flic, il faisait du bon boulot. Jusqu'au jour où il a témoigné contre notre flic, il s'est fait piéger. Depuis, c'est le rebelle.
Oh merde, enfin, moi, je l'ai lancé.
Voilà, qu'ils aillent au bout, quoi. Je sais pas, qu'ils fassent arriver en moto, avec un
Amérindien,
qui résolvent des enquêtes, je sais pas. Non, mais... Ouais, je sais pas, le côté je suis un ancien flic, machin, ça tient pas trop, quoi. Quelle raison, un ancien flic. On revient un peu au cas des années 80-90, où t'avais des pompiers, des inspecteurs des impôts qui étaient flics, tu vois, qui étaient catcheurs, pardon. C'était les gimmicks de l'époque années 80, hein. Ça n'avait aucune raison, quoi. Pourquoi un mec.
Vie est dure. La vie est dure aux États-Unis, double job.
C'est ça. Pourquoi un flic deviendrait catcheur, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc, du coup, non, j'avais pas été très intéressé par ces vidéos. Oh. Pareil, ça me disait un peu rien sur qui il était, quoi, le mec. Qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son trip. À part faire du cosplay d'Iron Man un peu cheapos, je sais pas trop, quoi.
Ouais, effectivement. Là, on est revenu un peu à ça, effectivement. Bon, bah écoute, on va voir. Ces mecs étaient, ils étaient sur notre écran. Est-ce qu'on les verra plus ou est-ce qu'on les verra moins, bah, on ne sait pas.
On dirait sa place dans l'équipe Survivor Series et là, sa victoire, ouais. Goulak, même ouais, si c'est, ce n'est pas pour rien, à mon avis.
T'as raison. On va direction la division féminine, justement, puisque Sasha Banks et Bayley sont là. Elles ont quelque chose à dire. Bayley en a gros sur le cœur. Sasha Banks également. C'est pas elle qui ont merdé à Chicago, c'est la faute à personne, hein, visiblement.
Ah non, jamais.
Ou alors plutôt c'est la faute aux autres. C'est toute la division féminine qui a merdé. Mmh. Elles ont pas perdu parce que NXT était meilleur qu'elles, elles ont perdu parce que le reste du vestiaire les a laissées tomber. Ce sont des leaders, hein, Bayley et Sasha Banks.
Ah bah oui.
Bah ouais, quand même. Tant qu'il y a une champion. Bah, il y a de la championne là-dedans quand même. Ah ouais. Donc le fameux maillon faible, hein. On est à la recherche du maillon faible depuis quelques jours.
Mm-hmm. Qui pointer le doigt de l'accusation?
Tout le monde. C'est ce que fait Sasha Bex.
Au moins c'est bien, tu vois, il n'y a pas de discrimination, c'est tout le monde. Voilà.
Toute mon équipe était le maillon faible, c'est plutôt pas mal, c'était marrant, j'ai trouvé.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent que Banks dit au début de la promo, on n'est pas là pour faire un rara speech. Encore une référence au truc de Rollins de la semaine dernière à Raw, qui était référence à ce qui s'était passé suite au fiasco des vols de retour d'Arabie Saoudite. Donc voilà, le fameux rara speech, encore une fois, ils y font mention dans leur promo en kayfabe.
Je trouve ça assez rigolo. C'est pas mal. J'aime bien quand ils font des petits fils rouges comme ça. Mickey est faible. C'est assez subtil, toi.
Après, c'était aussi, je pense, pour marquer la différence avec Seth Rollins qui avait fait exactement la même chose le lundi avant. On n'est pas là pour dire que tout le monde serait à chier, mais en fait, on dit quand même. C'est un peu
c'est
ça.
C'est un peu non dit. Oui, non, là-dessus, c'est vrai que tu dis, OK, on a eu le droit un peu à la même chose. Bon, en même temps, Raw et SmackDown se sont tous les deux fait rouler dessus, donc fallait bien s'emparer du micro et puis en parler. Et Lacey Evans, qui visiblement a un potentiel de face, décidément là, à SmackDown, débarque. Elle nous explique qu'elle a passé du temps pour préparer le dîner de Thanksgiving pour 36 personnes. Donc elle n'a pas de temps à perdre avec ses deux filles sans classe, donc ses deux filles vulgaires. Elle leur ferait même pas confiance pour s'amuser lors d'une soirée. Une vraie femme devrait être un leader et pas rabaisser les autres. Lacey Evans fout un gros punch à Sasha Banks, je crois, non?
Ouais, elle fait son woman's right, hein. Ouais. À Sasha Banks qui en perd son bonnet. C'était assez rigolo. Dès que Sasha Banks tourne la tête sous le coup de poing, il y a le bonnet qui vole à 2 mètres. C'était plutôt bien fichu. Ce qui rajoute à l'impact du coup. Effectivement, Evans qui s'en va alors que Bayley check et vérifie que tout va bien pour Sasha Banks, qu'elle a encore ses mollets en place. Donc ouais, et Evans qui semblerait s'ériger en contre au duo Banks et Bayley. Moi, je suis dans tout ça. Ce qui me triste au plus, c'est Banks, en fait. Hein, ils ont fait un gros packaging, il turn, cheveux bleus, et finalement, elle refait copine-copine avec Bayley, à faire un peu des sortes de pain bêche. Non, je sais pas. Arrêtez, quoi. Mettez-la dans le ring, donnez-lui des victoires. Je sais pas, quoi. Je suis pas convaincu. J'avais un peu espoir de revoir le personnage du boss de la grande époque d'NXT de Sasha Banks. C'est pas vraiment le cas. J'ai pas l'impression qu'ils savent où aller avec. Ils lui ont fini un remix de sa musique d'intro, mais bon, rien n'y fait. on est encore un peu dans les mêmes travers d'il y a longtemps, à l'époque où elles étaient les feuilles sous les deux, là elles sont une, ouais. C'est plus intéressant et c'est ça qui est dommage.
Je suis d'accord avec toi, enfin, son gimmick de boss déjà, elle peut pas l'avoir si elle est le valet de sa copine, quoi. Enfin, si elle est la boss, elle roule toute seule et...
Elle peut l'avoir, j'ai envie de dire, si jamais c'est elle un peu le Polyman de Bailey. C'est-à-dire que si elle est le cerveau, celle qui a l'air d'être en charge, au contrôle, alors que même si c'est l'autre qui porte la ceinture, c'est pas grave, elle peut quand même gérer ce côté boss, je pense. D'ailleurs, NXT, elle avait été boss alors qu'elle était alliée à Charlotte, qui était Charlotte qui avait la ceinture.
Oui, sur les vieux dossiers, là.
Ouais, donc du coup, elle avait déjà ce côté, dans la dynamique du duo, c'est moi qui suis le boss, c'est moi qui suis le cerveau, entre guillemets. Par contre, c'est l'autre qui a la ceinture et ça marche. Donc, il pourrait faire quelque chose comme ça.
Ouais, mais voilà, c'est pas dingue. Hein, les deux, elles ont du mal un peu à convaincre. C'est un peu tremblant, en fait, cette paire en haut de la division féminine. Et Lacey Evans va peut-être venir chambouler un petit peu tout ça, en tout cas occuper Bailey en adoptant cette position un peu de face, hein, un petit face turn pour Lacey Evans. Écoute... moi, j'aime beaucoup Lacey Evans, donc écoute, allons-y gaiement pour voir un petit peu ce qui va se passer. On reste dans l'édition féminine, on a eu un match entre Nikki Cross et Sonya Deville, puisque Mandy Rose, en plus, s'est moquée de Nikki Cross, parce que Nikki Cross, voilà, elle s'habille n'importe comment.
C'était nul, ça aussi, là, c'était niveau King Corbin quand on insulte, c'est pitoyable.
Ouais, c'est pas bien de se moquer, on a dit pas la famille, pas les vêtements.
Non, c'est sûr, quoi. Enfin, en plus, à partir de deux secondes, mais c'est nul que Mandy Rose se fout de la gueule de Nikki Cross juste sur son apparence, alors que t'as Sonya Deville qui aborde quand même derrière, toujours avec elle, un drapeau LGBT, tu vois, qui quand même lutte contre les discriminations, notamment sur les apparences. Enfin, je veux dire, c'est zéro cohérence, zéro fucks given, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est un peu...
trouver autre chose, quoi.
Ouais. À la limite, si Sonya Deville, elle l'affichait pas, toi. Tu pourrais sentir, du coup, genre, toi, l'autre, là, elle est tellement auto-centrée, tu vois ça souvent dans ce groupe, genre de groupe, toi, où la leader est tellement auto-centrée qu'elle se moque de ses victimes sans se rendre compte qu'en fait, elle est en train de se moquer également de ses amis, quoi, enfin, de ses amis. Ouais. Là, ce serait un peu plus subtil, mais là, effectivement, l'autre, elle affiche clairement ses couleurs, arc-en-ciel, elle est assez, elle est quasiment à l'opposé du spectre.
C'est ça, surtout qu'avec ce qui se passe après, et tu laisses la joie de l'annoncer, mais elle aurait pu dire à Nikki Cross, regarde, elle est trop nulle, elle a passé Thanksgiving toute seule, quoi. Parce qu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis, tu vois, parce que Nikki Cross, elle est un peu frappadingue. Pourquoi pas, et ça passe, tu vois, si tu critiques le gimmick du personnage de Nikki Cross, et puis en plus, tu prépares ce qui vient ensuite, quoi. Ça aurait été beaucoup plus à propos et intelligent, je pense, mais non.
Vu Amiral, Amiral est là pour corriger les scripts de la WWE et devrait être engagé pour le faire avant que ça passe à la télé quand même.
Mais plutôt grave, que d'attendre. Grave. Viz, call me up quoi, call me up.
Aussi, mais c'est vrai, tu as raison puisque Nikki Cross remporte son match et malgré le beatdown qui s'ensuit, Alexa Bliss est de retour. Oh yeah. Elle a fini de boire des coups avec des inconnus dans les pubs du stade. Ouais. Elle vient sauver sa nouvelle, son amie de toujours, hein, puisque elles sont liées d'amitié depuis un bout de temps maintenant. Le retour d'Alexa Bliss aux affaires.
Là aussi, ça fait plaisir. Hein. Elle était partie depuis pas très longtemps, mais
c'est
cool de voir que la blessure elle a été clearée pour revenir dans le ring. C'est bien, je pense que le roster, effectivement, en a besoin, que ce soit le roster tag team féminin ou le roster féminin tout court à SmackDown. D'ailleurs, si Lacey Evans turn face, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un manque à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas grand monde de face chez les femmes à SmackDown, de face de premier plan, on va dire. Donc voilà. Alexa Bliss, SmackDown en a bien besoin.
Ah oui, on en a bien besoin. Ce dont on avait peut-être moins besoin, mais bon, ça peut faire sourire, c'est Drake Maverick. Alors moi, je suis un grand fan de Drake Maverick.
Ah, oui.
Je parle mal des gens que j'aime bien, c'est pas bien de faire ça. Il a essayé, par contre, ce qu'il essaie de faire, ça c'était pas bien. Il a essayé d'embrasser Dana Brooke sous le gi, là, qu'il avait ramené.
La vieille technique à 2 francs.
C'était nul. Et surtout...
parce que plus personne ne fait ça depuis qu'on a changé en euros, mais Drake Maverick, lui... Très old school avec sa cravate jaune là. Oh là là.
Oui. Et ça marque surtout un autre retour. C'était la soirée des retours.
Incroyable.
un son de guitare, les cordes de la guitare tremblent, c'est Elias, Elias est là, il chante une petite chanson pour se moquer de l'ami Drake Maverick, et Elias, dont l'ami Giscal en interne se demandait où il était passé, et ben Giscal, il est là, il est à SmackDown, et il a sa guitare.
Et il chante la sérénade, il fait la sérénade à Dana Brooke. Alors que bon. C'est dangereux, parce que Dana Brooks, celui qui lui fait la sérénade en ce moment, et ça c'est true story, c'est Batista. Sur les réseaux sociaux, là, depuis une semaine, sur Twitter, Dana Brooke et Batista s'envoient des messages en public, genre limite caché. Ah, est-ce que c'est un date? Ah oui, c'est un date, machin, etc. Donc il y a l'air d'avoir une love story sur Twitter entre Dana Brooke et Batista. Donc moi, je serais à la place d'Elias, je la jouerais mollo, hein, je ne draguerais pas trop Dana Brooke, c'est un coup à se prendre une powerbomb des familles, comme The Animal sait faire.
D'accord, et eh ben écoute, tu devrais le prévenir, ce bon chanteur, parce que sinon il va finir avec la guitare là où je pense. Hein.
Mm-hmm. Oh oui, un, c'est un chandail là, ça va pas du tout non plus. La fashion police manque à SmackDown.
Ouais, please come back. Mais tout le monde les veut, à la fashion popo, donc il peut pas être partout malheureusement. Il faudrait créer toute une brigade de la fashion popo. C'en est fini des retours, je crois, j'ai fait le tour.
Oui. Du coup, le retour, hein. Encore une fois, trois retours, ouais. Là, ça marque bien ce After Survivor Series, on repart chacun dans nos rosters, on commence à builder des trucs dans la vue du Rumble et WrestleMania, donc on fait revenir des gens, c'est bien.
Et puis TLC est pas loin, ça c'est dingue, hein. Alors on vous parle là, c'est quoi dans 10 jours en fait
Ouais c'est ça, après ce SmackDown là, il y aura encore 2 SmackDown pour TLC.
Ça. Donc, faut aller vite, hein, faut aller vite. Du coup, c'est pas pour rien qu'on a vu des chaises, qu'on commence à avoir des chaises, qu'on commence à avoir des tables, comme on a vu dans l'opener, et qu'on commence peut-être aussi à voir des nouveaux prétendants, par exemple pour le titre de champion par équipe, puisque on a le New Day qui est là pour un open challenge. Ils nous font la pub pour Black Friday, Thanksgiving. Voilà, il y a plein de choses à célébrer. Aux États-Unis, Sami Zayn débarque. Il nous fait une belle petite promo encore, j'ai trouvé, en désinguant l'aspect consumériste complet de cette période de l'année, y compris des New Day qui vendent leurs fesses à la gloire du capitalisme. Le plus total.
Salaud,
on aura ta peau. Et du coup, ils acceptent. Ils acceptent, mais qui sont-ils? Qui accepte? Eh bien, il y a Nakamura d'abord qui accepte le challenge et quelqu'un qui était un petit peu dans le giron déjà de Sami Zayn, Cesaro et son pantacourt débarquent. Donc, on a un match, on a un bon petit match entre les New Day, Nakamura et Cesaro. On se dit, est-ce qu'on va avoir une petite surprise de ce premier SmackDown qui a suivi Survivor Series? La réponse, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Et non, voilà, puisque il y a eu du rêve. Voilà, l'arbitre, je crois, il y a un moment, il s'est fait. Enfin, Sami Zayn a essayé d'entrer d'interrompre un petit peu le match.
Affirmatif.
Son bordel, comme d'habitude, pardon. Mais Kofi a placé son Trouble in Paradise sur Cesaro, me semble. Malgré une grosse prestation de Cesaro, une fois de plus, avec des gros percutes dans la tronche. Tout l'arsenal du Suisse. Un vrai couteau suisse, Cesaro, qui a fait de ce match assez costaud, assez solide encore. Ouais. À la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. Le New Day conserve son titre. Qu'est-ce que tu penses de ces prétendants là, à la ceinture, à la double ceinture?
Bon, les prétendants, ils ont eu leur shot, hein, donc du coup, ils ont perdu clean, donc c'est fini pour eux. Donc je pense que s'il y a un match,
seconde chance avec l'amiral.
Ah bah là, je pense que ce serait quand même assez incohérent. Après, il faut dire qui c'est qu'il y a dans la division tag team masculine à SmackDown pour venir chercher les idées, je sais pas.
Il y a Levi Machinery, mais ils sont face, évidemment. Ça prouve bien que... The Revival, mais bon, on tourne en rond, quoi.
Ouais, bah c'est ça. Après, de toute façon, de toute manière, soyons clairs, s'il y a un match par équipe pour TLC, pour la défense des Texas McDonald, il sera en pré-show. Donc du coup, finalement, ils peuvent mettre n'importe quoi, les gens s'en foutent un petit peu, et on voit clairement que, encore une fois, il y a, en termes de créative, hein, de scénario storyline, il n'y a absolument rien qui est développé là-dessus. Donc on met l'idée parce que les gens aiment une idée ça fait vendre, et c'est cool pour les kids, etc. C'est très bien, puis ça donne des matchs qui, on va pas cracher dans la soupe, sont cool, hein, comme on l'a eu ce soir. Maintenant, derrière, il n'y a rien qui est créé. Peut-être qu'il faudra attendre le retour de Xavier Woods pour qu'ils aient envie de créer une storyline ou un scénar quelconque là-dessus. Mais sinon,
on attend. C'est vrai que c'est assez gros bide, triste. Mais des deux côtés de la barrière, hein. Autant à Roy à SmackDown, division tag team qui était pourtant pendant.
Catastrophique.
Ouais, pendant, c'était l'année dernière. Hein, l'année dernière, c'était, on était au taquet. Alors, ou alors, il faut attendre la sortie de prison des frères Russo.
Ouais, alors ça, je sais pas quand c'est, mais
on est on est le dossier, maître Armbar.
Ouais, je pense que il est dans les tréfonds des caniveaux avec les bouteilles vides des frères Russo. Non, je sais pas quand ils reviendront. Et puis, qu'importe. Alors, vraiment, ça lève la question quand on regarde l'état de la division tag team masculine SmackDown Hero. Est-ce qu'il faut pas la gérer un peu comme la division féminine? Je dis pas qu'elle est bien gérée, mais le côté, ok, il y a une ceinture tag team, enfin un titre hein, commun à Raw et SmackDown, et il est défendu dans les différents shows, et du coup les storylines se construisent avec plus d'équipes à disposition, parce que là je pense qu'ils n'ont peut-être pas assez simplement de gens différents pour se renouveler.
Alors et il ça faut passe. Qu'ils créent des nouvelles équipes, il y a quand même, le roster est hyper fat quoi. Tu mets Ali et puis Shorty G par exemple, toi. Écoute, ils se connaissent, ils ont eu background ensemble, ils ont fait la guerre ensemble, voilà. Par exemple, toi, ça pourrait être une bonne idée aussi. Là, on est plus dans la multiplication des pains avec les ceintures que l'unification. Donc.
Ouais, mais je suis d'accord. Mais après, du coup, on va, enfin, c'est la même chose que les machineries, tu vois. Enfin, il y a déjà des équipes, mais ils n'arrivent simplement pas à faire des scénarios avec, quoi.
Je pense que ce qui est couillon, c'est que c'est Dolph Ziggler et Robert Roode avaient gagné le match tag team à Survivor Series et que du coup ils n'en ont rien fait quoi.
Ah complètement, alors qu'ils pourraient avoir un tête à cheveux pour ça quoi. Mais non, c'est on n'en parle pas donc.
Bon, par contre, de ce dont on va beaucoup parler, c'est évidemment cette grosse storyline hein, entre The Fiend et Daniel Bryan. Il y a eu plusieurs séquences. Tout d'abord, la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui nous accueille. Voilà, il est heureux d'être le champion universel. Il veut partager, parce que quand on partage, c'est qu'on prend soin des autres. On s'inquiète de leur sort. Il aime beaucoup son nouveau jouet. Il a adoré s'amuser avec Daniel Bryan. Il veut le refaire encore. Et que s'il veut que Daniel Bryan... Enfin, il est prêt à exaucer le vœu de Daniel Bryan. Il y a juste à le laisser entrer. Un petit peu plus tard, parce qu'on nous avait annoncé en fait un nouveau visage de la Firefly Funhouse, pour tout vous dire. Et on débat un petit peu de savoir qu'est-ce que c'était que ce nouveau visage. Est-ce que c'était métaphorique ou pas? Parce qu'un peu plus tard, on a une interview de Daniel Bryan. Et en fait, au moment où l'interview commence, re-épisode de Firefly Funhouse avec le petit cochon, la Huskies, qui mange beaucoup trop. Un vrai petit glouton. Bref, Wyatt dit que voilà, Thanksgiving, c'est un mensonge. Que le premier... l'histoire de Thanksgiving, c'est plutôt la rencontre entre les Muscle Men et les Reptiliens. Donc, rappelez-vous, hein, Muscle Men, c'est ce monsieur Touyou-Toutou, là.
Votre coach de gym pour pousser de la fonte et faire de la gonflette. Muscle Men. Ouais.
Le Muscle Men et les Reptiliens. Et du coup, on a droit à un clip vidéo de rap... bien enlevé, qui nous rappelle un peu les premières vidéos auxquelles on a eu droit à la Firefly Funhouse.
C'est simple, si vous voyez les clips vidéo rap du Prince de Bel-Air, vous imaginez ça sous acide, et c'est ce qu'on a eu. Voilà.
Ah, exactement, tu as bien résumé, donc n'hésitez pas à consommer de l'acide en regardant les épisodes du Prince de Bel-Air.
Vous pouvez regarder la Firefly Funhouse, c'est pareil, et c'est moins dangereux, c'est mieux pour la santé. Voilà.
T'as les effets sans avoir besoin de consommer.
Merci, merci à WWE.
Brian était confus, est-ce que toi t'étais confus pendant cette séquence?
Ah, j'étais un peu halluciné devant mon écran, je me suis dit, quel est le fuck quoi, c'est... Waouh, ils vont loin. Quand tu vois ça, tu te dis, mais Bray Wyatt, il a un tel contrôle sur ce qu'il fait en termes de storyline et ce qu'on l'autorise à faire, qu'il a eu le feu vert pour ça. C'est juste. Ah ouais, pas mal.
Vu la petite marionnette de Vince McMahon aussi. Hein,
qui... Oui. Parce que ça, côté, forcément, le côté muscle man, il faut que tu te muscles, que tu sois plein de muscles, etc. C'est aussi en rapport avec le profil type du catcher que voulait Miss McMahon dans les années 90-80. Voilà, c'était le standard de WWE, le moule, on peut dire. Donc, je pense que c'était une référence un peu à ça, quoi.
Ouais. Une autre séquence qui était un peu étrange, une fois de plus, peut-être, c'était une petite rencontre inopinée entre le Miss et Daniel Bryan. Et le Miss lui dit, écoute, Daniel, bon, on n'est pas potes, mais attention, prends garde à toi, le Finn, il change les gens. Alors, c'est vrai que tu te dis, effectivement, Finn Balor, Seth Rollins, ces mecs n'ont pas vraiment survécu à leur rencontre avec The Finn. Ils ont tous un petit peu pété un plomb et rejoint le côté obscur de la force.
Et ça, c'est très bon. Ça, ouais. C'est très, très, très bon qu'ils mettent ça en place. Et pourvu que ce soit pas juste une improvisation géniale sur le moment du Miss, mais que réellement, carton dans les plans que les gens qui se font battre par The Fiend, eh bien il y a un vrai impact derrière, ce qui a toujours été ce qui a manqué à Bray Wyatt quand il était dans son ancien personnage un peu leader de culte, où à la fin avec Rowan Harper ils enlevaient les gens en backstage et il se passait rien. Il y avait juste Brian qui avait été converti pendant 2 semaines, je crois, avec Family, mais c'était un peu nul, et qui portait le même costume qu'eux. Mais là, voilà, que les gens ils soient psychologiquement complètement brisés suite à une défaite avec le film, c'est cool, et ça correspond effectivement avec la thématique film d'horreur du mec, quoi, du personnage. Donc ça, pourvu que ce soit pas un hasard, pourvu que ce soit du booking un peu à long terme, et qu'à la fin, même à la limite, il puisse, je sais pas, par ton délire total, vrai, que le film ait encore un contrôle sur les gens qu'il a battus et qu'il a fait basculer du côté obscur. Et qu'à un moment donné, un héros doive surgir de tout ça pour les libérer et vaincre enfin la menace, quoi. Enfin, je sais pas, un truc chevalier du Zodiac casque, quoi, tu vois, mais.
voilà toutes les références culture pop de l'amiral. Ouais. Après le prince de Valère, les chevaliers du Zodiac.
Ah bah attends, c'est un peu ça, hein, la WWE, hein. C'est un peu un croisement des deux, si tu réfléchis.
Si tu devais résumer la WWE. Voilà. Imagine un épisode de Prince de Bel-Air qui se passerait dans le royaume d'Athéna. Et tu y es. Ensuite, donc on a ça, donc effectivement, donc, le Miz est visiblement concerné.
Ah oui. Très concerné
par l'état mental de Daniel Bryan. Daniel Bryan s'énerve, il est pas content. Le Miz lui dit même, écoute, on peut pas te perdre, quoi. SmackDown a besoin de toi. Ok, le Miz est parti, et après il s'en va. Ça c'était un petit peu
tout
mal.
C'est un bel aveu.
C'est un bel aveu. Ah, c'est un peu. Tu te dis d'où ça sort, quoi. Mais ok, oui.
Un bel aveu. Face, même si on avait dit que c'est cool que même s'ils sont tous les deux face, ils sont pas. Bon ben voilà, il avoue à contre-cœur quand même le Miz. Il fait ok, ça me coûte de le dire, mais. SmackDown a besoin de toi, quoi.
Donc, c'est vrai.
Ah oui, en plus, c'est vrai, à tous les
points. Non, mais effectivement, oui, ça, c'est bien vu. Moi, je suis toujours un peu emmerdé par ces heel turn, face turn de Daniel Bryan, là, en 2 mois, là, qui sont un petit peu étranges, mais effectivement, c'est plutôt ça qui m'embête que, effectivement, le Miz qui a bien joué à partir du mec, ah, bon, ça me fait chier de te le dire, mais je te le dis quand même, parce que, voilà. Ouais. On a besoin des ratings, SmackDown a besoin de toi. Parce que moi, je suis sous la payroll de la Fox, donc tu vas pas foutre le bordel, tu ne vas pas nous faire chier. Et Daniel Bryan, bah, du coup, il faut qu'il s'explique, il faut qu'il prenne la parole. Et du coup, il va le faire au main event. Du coup, il nous explique, voilà, Bray Wyatt m'a visiblement offert un nouveau title shot, un match pour le championnat. Voilà, on m'a prévenu, hein, tout le monde est là à me dire, écoute, Daniel, fais gaffe. Ouais, bah oui, j'étais Survivor Series, j'étais nerveux. Mais moi, là, je me suis changé, quelque chose s'est passé à Survivor Series grâce aux fans. Leur passion, leur énergie m'a fait réaliser que, prendre conscience que ce que j'aurais dû être depuis tout ce temps, en fait, le leader du Yes Movement. Le Yes Movement n'est pas mort. Les fans l'ont ramené à la vie. Et on a des énormes Yes Chants, comme à la grande époque, avec des plans larges, panoramiques, 16/9 ouais. Cinématographiques, de la foule qui se lève, qui fait des Yes Chants. Tout ça, pour moi, est encore très bizarre, la façon dont ça s'est arrivé, mais tu ne peux pas nier, on ne peut pas dire le contraire. Ce truc-là, ce Yes Chants, c'est là et c'est là pour toujours. C'est incroyable.
Voilà. Bah, c'est super simple, c'est très malin. Un truc que
j'ai fait faire
facilement. Enfin, c'est très viral. C'était un symbole à un moment donné dans du gros run. Et ça, Road to Mania qui a été assez exemplaire. Donc, non, c'est, ouais, ça restera très longtemps, quoi, ça, c'est clair.
Il réapparaît à l'écran. Il nous annonce qu'il nous montrera, il va le dévoiler à tous et à toutes, le vrai visage, la vraie forme. La vraie forme de Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan a aidé Bray Wyatt à le construire et à le changer. Donc ça, c'est pas mal aussi. On fait des rappels au passé. On sait que voilà, justement, il y a eu pas mal d'interactions entre les deux hommes.
Ouais. Il cite toujours pas quoi, Wyatt.
Non, mais ça reste assez fou.
Il a pas oublié. J'ai pas oublié.
C'est pour l'instant, grosso modo, ce sont les fans, c'est les gens comme toi et moi qui parlons pendant des heures de catch qui trouvons les raisons, quoi. Parce qu'effectivement, ouais, c'est pas lui qui les donne. Donc ça se trouve, on raconte du gros n'importe quoi. Peut-être même que lui, il sait pas. Mais, mais en tout cas, il s'adresse voilà, à des gens avec qui il a déjà eu des affrontements, mais bon, qui n'a pas affronté Bray Wyatt dans sa vie. Et il nous dit, bah voilà, un nouveau visage, le fameux nouveau visage qu'on nous avait promis. Et alors que le Fiend apparaît, on a aussi vu... alors, on va en parler en même temps. Alors, il y a deux choses. On nous a parlé d'un nouveau visage de la Firefly Funhouse. C'était bien ça qui nous a été annoncé.
Tout à fait.
Alors ça, techniquement, ça n'a pas vraiment changé. La petite maison où il habite, là, le plateau, là, ça a changé ?
Je sais pas. En fait, c'est... par rapport... Mais...
Après, il y a cette histoire de ceinture.
Oui, tout à fait.
Il y a cette histoire de ceinture. On a vu rapidement, de façon très succincte, une image qui ressemblait vraiment à une ceinture, mais une ceinture assez horrifique, avec le visage de The Fiend complètement étalé à la place du gros écusson, du gros blaze que tu as, du gros blason qu'il y a au milieu de la ceinture. Là, c'est une ceinture assez horrifique. Hein. On pense à tous ces films d'horreur, de massacre à la tronçonneuse, où le mec se fait des masques avec le visage de ses victimes.
Tout à fait.
C'était assez horrible. Donc, il y a ça d'un côté, et après, il y a ce qui s'est passé de l'autre. La ceinture,
je trouve ça cool, parce qu'on en parlait la semaine dernière quand on parlait de SmackDown, quand Briouillette change la ceinture universelle de rouge en bleu, je trouve ça un peu naze, parce que ça collait pas au personnage, je voyais pas le film avec la ceinture bleue autour des tailles.
Donc, avec là, son petit pinceau en train de repeindre.
Ouais, là je trouve ça cool si ils font en sorte que le film, quand il apparaît dans l'arène et dans le ring, la ceinture qu'il porte c'est celle-ci, celle avec sa gueule dessus, marquée Hurt, donc blessé dessus, je trouve que ça sera très bien. Ça collera au personnage, ça complétera tout son trip avec son masque, avec sa tête, son ancienne tête en lanterne. Enfin, c'est juste parfait. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est quand Bray Wyatt apparaît en gentil Bray dans le Firefly Funhouse, eh bien, dans ce cas-là, il a la ceinture universelle bleue. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et là, s'ils font ça, écoute, je trouve ça cohérent et.
C'est tellement deux entités différentes qu'effectivement, il y aurait une logique limite qu'ils ne puissent pas vraiment interagir. Enfin, y a un...
Ah ben, je
donc, du coup, ils n'auraient pas la ceinture, quoi, la même ceinture.
Je vais même faire un wild guess, comme on dit aux États-Unis, devinette un peu sauvage, un peu what the fuck. Est-ce que tout ça ne nous mènera pas in fine à un match Bray Wyatt contre The Fiend ?
Quand tu as commencé à me parler. Je l'ai senti que tu allais me balancer ça.
Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne se rappellent pas, il y a déjà eu il y a très longtemps, à WrestleMania, je ne sais plus quelle édition, un match Undertaker versus Undertaker. Ok, on est clairement sur un positionnement de personnages fantastiques là aussi. En plus, là, avec deux identités très différentes qui sont là depuis le départ du film et de Firefly Funhouse.
Elle serait là la vraie différence. Hein.
Ouais, et là, ça pourrait le faire, parce que du coup, Bray Wyatt se jouerait le Bray Wyatt du Firefly Funhouse avec visage découvert, et il prendrait quelqu'un d'autre avec à peu près la même carrure, avec des dreads, le masque et des tatouages temporaires pour reproduire ce Bray Wyatt, bref.
Et ils ont un an pour prendre un jobber et le transformer en Bray Wyatt.
Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas, est-ce que, vu que c'est un mec sous le masque, ça peut être n'importe qui, tu vois, est-ce que, je sais pas, genre un mec de Heavy Machinery peut pas faire le job, tu vois, au niveau carrure, je sais pas. Otis.
Et là, tu vois
The Fiend qui fait le caterpillar.
Oh là. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Donc voilà, nouvelle ceinture, effectivement, parce que en fait, pour te dire, à Survivor Series, donc j'ai vu le match en live, si je dis pas de bêtises, il avait sa ceinture autour du cou.
Oui, tout à fait.
Il l'a portée autour du cou, mais c'était la ceinture bleue.
Oui. Mais comme la lumière était rouge, ben tu croyais qu'elle était rouge, quoi.
Ouais. Les mecs ont quand même toujours les idées un petit peu en retard à chaque fois. T'as fait tiens, en fait, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. La lumière rouge n'est pas apparue tout de suite. Tout d'un coup, maintenant, c'est la lumière rouge est tout le temps là. Donc, t'as l'impression que pourtant ils ont pris le temps pour The Finn. Mais bon.
Ah oui, mais attends, j'ai lu un interview de Seth Rollins qui disait que dans son match, premier match contre The Finn, il n'était pas au courant que la lumière rouge allait rester tout le match. Que pour lui, la lumière rouge était que pour l'intro, l'entrée de The Finn, mais qu'après, il allait revenir à la lumière normale. Mais non, il a découvert pendant le match que, ok, ça serait la lumière rouge tout le temps. Et ce qui était un peu galère pour ajuster sa vision, surtout que c'était un match en cage et que bah, la cage était rouge aussi, donc c'était un peu compliqué à gérer. Voilà.
Joue à rien, bordel. Il a vu rouge. Il a vu rouge, cette relève.
Littéralement.
Et l'autre partie de ce nouveau visage de la Firefly Funhouse est un peu plus. Pas énigmatique, puisqu'on sent venir ce qui. Voilà, on sent le truc la semaine prochaine. Si on. Voilà, si tout se passe bien, on devrait avoir visuellement la réponse. C'est lors du speech de Daniel Bryan. The Fiend apparaît, il crève non pas à l'écran, même si certains trouvent qu'il crève l'écran, il crève le ring. Il passe à travers, il chope Daniel Bryan, il l'emmène donc dans les gorges de l'enfer. Et dans un rire démoniaque, on commence à voir des mèches de cheveux voler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et visiblement, Daniel Bryan a eu droit à un petit passage chez le coiffeur avec The Fiend, qui du coup avait l'air d'être bien motivé à l'idée de remodeler effectivement Daniel Bryan. Donc, à quoi va ressembler Daniel Bryan la semaine prochaine?
Peut-être qu'il reviendra avec sa coupe de cheveux courte. Hein, voilà. American Dragon once again. Alors après, je pense que c'est ça le côté nouveau visage dans l'affaire Flying Funhouse, puisque si je me trompe pas, dans l'affaire Flying Funhouse, il y a ses portraits de ses anciens adversaires avec les yeux barrés en rouge, c'est quand il les a attirés dans le ring ou un truc comme ça, ou qu'il les enlève, non? Donc est-ce que
la semaine prochaine, c'est pas spécialement qu'il les a emmenés dans le ring, mais qu'il les a attaqués, quoi.
Ouais, ok.
Parce que t'as tout, t'as Jerry King Lawler, Kurt Angle, je crois, et puis Mick Foley. Ils n'ont pas eu tous le même traitement, tu vois. Mais effectivement, là, Daniel Bryan, on risque d'avoir un nouveau visage la semaine prochaine. Ouais. Un peu moins de cheveux sur le caillou.
Ah, ça serait complètement logique, oui. Le contraire serait étonnant.
Ouais, c'est bien, de temps en temps, il faut pas hésiter à aller chez le coiffeur, se rafraîchir un petit peu la tête, quoi, et les idées. Donc on verra Daniel Bryan, le nouveau visage. En tout cas, voilà, visuellement, il y a du changement, une nouvelle ceinture pour les grands événements qui nous attendent. Et c'est comme ça que c'est terminé cet épisode de SmackDown, mon bon amiral. Donc c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors mon top, c'est les retours, hein, que ce soit de Elias un peu moins, Bliss et surtout Sheamus. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui étaient blessés revenir. Et puis ça, c'est le bon moment là après la Survivor Series, avant de commencer la Road to Rumble, to WrestleMania. Ils ont besoin de tout le monde, donc c'est cool de les revoir dans le champ de la WWE. Mon flop, ça sera le match ultra expéditif du Drew Gulak. Moi j'aime bien Drew Gulak et je pense qu'il y a un truc à faire avec ce gars-là. Et si on le font jouer que 2 minutes face à Alice, c'est un peu du gâchis. Ma note, ça sera un 3. Ça fait avancer un peu des trucs, mais sans plus, c'était pas trop mal, mais rien de vraiment transcendant, j'ai trouvé.
Effectivement, c'était pas la folie.
Ouais, ça manquait d'un bon match, en fait. Il manquait un deuxième, il y avait le match avec et Rennes, c'était cool, mais ça manquait d'un autre solide morceau de catch, en fait.
Moi, mon top, il va aller à ce gros beatdown, justement, de l'opener. Ça fait plaisir, hein, des gros beatdown. Je trouve que des fois, les mecs, ils restreignent, toi, ils serrent la ceinture, et genre... Alors que les mecs sont là pour se foutre sur la tronche à longueur de temps, à qui se foutre sur la tronche, compète des tables, TLC arrive, il faut commencer. Voilà, là, on nous a bien teasé, on va dire, un affrontement avec tous ces gens-là. Roman Reigns s'inclut. Donc, un beau beatdown. Pour mon flop, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de gros flop, à vrai dire. Il n'y a rien qui m'est spécialement choqué ou ennuyé. On va dire à la limite, est-ce que Sasha Banks et Bayley, j'en sais trop rien. C'était pas folichon, mais c'était pas non plus catastrophique. Je vais le donner à la scène tag team de SmackDown.
Ok, très bien. Il mérite.
Pas, voilà, pour son œuvre 2019. Et ma note, écoute, je suis un peu comme toi, je vais donner un 3. C'était un bon épisode, on passe un bon moment. Mais voilà, il va falloir un petit peu accélérer là pour la direction TLC.
Oui.
Parce que ça va arriver très très vite. Bon, et bien, on a terminé pour cette analyse de SmackDown. Je vous rappelle que Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE, vous pouvez également nous trouver en audio sur Apple, sur Google Podcast, sur Spotify, Deezer, également sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop et votre note. L'amiral en a parlé, on a un Discord, n'hésitez pas. Et tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je te remercie, Amiral, d'être passé.
Un plaisir.
Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ok. Eh bien, c'est parti.